Pom 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 pom.
Oui, c'est François Ruffin. Ça marche, à tout de suite. Donc là, dans le 15e arrondissement, à côté de la station Duplex à Paris, on va voir si on peut obtenir des faux papiers pour tous les sans-papiers du pays grâce à Adolfo Kaminski. Bonjour.
Comment
allez-vous? Très bien, vous-même. Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec François Ruffin, Adolfo Kaminski, une vie de faussaire.
Flight number 2, arriving from New York.
On
va
aller dans le salon.
Bonjour, monsieur Kaminski. Moi, je viens ici parce qu'on m'a dit que c'est ici que tous les sans-papiers de Picardie pouvaient obtenir des faux permis de travail, fausses cartes d'identité et puis tout ça, quoi.
Oui.
Oui, en plus.
Résistance. Un résistant, Adolfo Kaminski. Très souvent, on s'entend dire soi-même, et on entend dire « Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi, à mon niveau, face à tout ça ?» On se sent tellement impuissant. Des résistants comme Adolfo Kaminski, vous allez l'entendre, ne se sont pas posé la question « Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau, moi, tout seul, dans mon coin, face à cette fatalité ?» Il l'a fait, les circonstances, l'intention, sa propre vie, son itinéraire, tout ça, vous allez voir, a fait qu'il s'est lancé là-dedans, sans trop réfléchir au fond, avec une sorte de boussole minimum, la boussole minimum qui fait qu'il y a des choses qui se font, puis des choses qui se font pas, et puis il y a des choses qu'on peut admettre, et puis il y a des choses qu'on ne peut pas admettre, qui sont inadmissibles. Et puis voilà, c'est tout. Adolfo Kaminski, une vie de faussaire, écrit par Sarah Kaminski, c'est jusqu'à 16h dans la basse si j'y suis.
À mesure que nous avançons vers notre triste condition d'insecte, je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée, à tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible, à tous ceux qui l'ouvrent bien grand, activistes et manifestants, à nos amis anarchistes, à tous les fous terroristes. C'est pour qui la démocratie se vide de son sens si elle n'inclut plus le droit de dire non sans qu'une faction de flics fonde sur toi. Enfin, aux luttes fières et exemplaires, nous sommes chacun tributaire des...
D'autres causes, il a fabriqué...
Migration.
Parfois, des sauf...
Enrichir le sol, le sang et le sens.
Dans les années 1910... Des par ex excellence. Mais la guerre de 14 éclate, les révolutions sanglantes, la Russie, alors que l'Allemagne est alliée de la France. Et en 1917, Kaminski est considéré comme un russe rouge, un bolchevique. Et il est de nouveau, je parle des parents évidemment, il est contraint à l'exil avec sa famille et il choisit l'Argentine comme nouvelle patrie. Les Kaminski s'installent à Buenos Aires et c'est là que naîtra Adolfo en 1925.
Comment on devient faussaire?
J'ai commencé à travailler très jeune, avant 14 ans, dans une teinturerie. Et j'ai découvert la magie de la couleur. Et j'ai donc fait énormément d'expériences, de recherches et d'études, beaucoup grâce à mon patron teinturier, qui était ingénieur chimiste et qui répondait à toutes mes questions toute la journée. Il faut dire que j'étais très manuel. J'ai toujours fait les jouets pour mes petits frères et sœurs. On n'a jamais acheté le moindre jouet à la maison.
Qu'est-ce qui va vous être utile par la suite que vous découvrez à ce moment-là?
Alors, j'ai fait des essais sur les encres indélébiles. Il n'y en a pas. Et puis, il y avait énormément de pénuries dans la région. C'était à Vire, en Normandie, où nous sommes repliés au moment de la menace de la guerre. Alors, je fabriquais du savon, du cirage, des bougies, et que je distribuais à la population gratuitement, puisque j'étais contre le marché noir. Et un jour, allant à mon travail, je passe devant une pharmacie, et il y avait dans la vitrine plein de ballons, de corps nus, une balance de précision, un microscope et une petite affiche faite à la main, laboratoire à vendre. Je suis entré dans la pharmacie et j'ai demandé le prix qui était au-dessus de mes moyens ce jour-là. Donc le pharmacien et moi avons un peu discuté. Je lui ai dit que j'avais un petit laboratoire à la maison avec des casseroles, de la lessiveuse, toute la vaisselle était pleine de colorants et que je voulais me faire mon vrai petit laboratoire. J'ai d'ailleurs failli mettre le feu à la maison une fois, enfin c'est pas toujours évident, à cause d'une erreur dans un livre. Dans un livre, il y avait, au lieu de parler de palmitine, il y avait écrit paraffine. Alors j'ai voulu faire du savon avec de la paraffine. J'ai fait bouillir pendant des heures dans une lessiveuse. Et tout à coup, une fumée âcre a commencé à sortir. Et tout à coup, comme une explosion, brutalement. Heureusement, je m'étais reculé parce que ça sentait mauvais et sans quoi j'aurais été brûlé. Mon père est venu furieux, il y avait une odeur terrible dans la maison.
Dans les magasins maintenant, on voit ça dans les braderies quand ça se vend, il y a les petits jeux qui s'appellent le petit chimiste.
Je viens d'en acheter un pour Alec, un jeu avec justement un microscope, des choses comme ça. Et en l'achetant, parce que moi je suis très très nulle en chimie, je me suis dit que vous allez faire des expériences ensemble, toi et lui.
C'était pas le petit chimiste, vous c'était le petit chimiste, mais avec tout fourni par le pharmacien, avec du vrai matériel et de quoi faire sauter. Vous auriez pu fabriquer de quoi faire sauter des trains aussi, si vous pouvez faire sauter la lessiveuse de vos parents.
Oui, mais d'ailleurs je l'ai fait, pas les trains, mais les rails. Enfin, par la suite, je l'ai fait à la demande du pharmacien, d'ailleurs, qui était devenu un ami et qui était un responsable de la résistance.
France Actualité.
Près de Chalon-sur-Saône, un train de marchandises a déraillé à la suite d'un acte de sabotage commis par un groupe terroriste.
15 octobre 1943.
Le rapide de Nice, survenant à vive allure quelques instants plus tard, sortait des rails. On compte 39 morts. Le train de messagerie transportait des colis et des médicaments expédiés par la Croix-Rouge aux prisonniers français en Allemagne. La SNCF envoyait immédiatement sur place un important matériel de déblaiement. 48 heures plus tard, le trafic était rétabli.
Vous êtes un petit enfant juif argentin qui quitte Paris pour s'exiler en Normandie. Dans la journée, vous travaillez chez le teinturier, vous posez des tas de questions pendant toute la journée à votre patron qui grommelle et puis tout ça, mais qui est bien content de vous répondre quand même. Le soir, comme vous avez réussi à acheter, enfin, il vous l'a à moitié donné, du matériel au pharmacien
Vous faites des heures sup d'apprentissage dans votre chambre pour un peu tester tout jusqu'à temps que vous fassiez sauter la maison. Et puis le drame survient dans votre vie.
Le drame en deux fois. D'abord l'assassinat de ma mère pour pouvoir récupérer notre maison. Ensuite l'arrestation d'Ancy et où j'ai découvert les Juifs. J'en avais jamais vu. Les gens me disaient... les Juifs, ils ont crucifié le Christ, bref, plein de choses, mais je disais, mais vous savez, nous, on est Juifs aussi. Ah oui, mais vous, c'est pas pareil, vous n'êtes pas comme les autres.
C'est-à-dire maintenant, tout le monde a son bon arabe, à ce moment-là, tout le monde avait son bon juif.
Oui, ah, vous n'êtes pas comme les autres. Et un jour, j'ai dit, mais vous en connaissez d'autres ? Il m'a dit, ah ben non, voilà, mais les gens étaient adorables.
Antisémites et adorables.
Oui, oui. Mais enfin, c'était dans la culture. Ça, c'était pas les méchants. D'ailleurs, dans Vire, il y a un brave homme qui a adopté une petite orpheline de la guerre d'Espagne. Et puis, on a donc été internés à Drancy. Et là, j'ai découvert des Juifs. J'étais très étonné. Il y en avait des petits, des grands, des gros, des maigres, des blonds aux yeux bleus, des bruns, des noirs, des...
Hélène contre la France.
Et tout ça, c'était des juifs, la race juive, comme disaient les nazis. J'ai appris...
Dans le département du Val-de-Marne, qui finance à coups de millions...
On m'a libéré, j'ai failli refuser par solidarité...
Voilà, c'est comme ça que le poteau rose a été des 4 ans aujourd'hui. Voilà l'homme qu'il est, voilà son histoire, voilà son humour, et voilà ce qui est arrivé, comment il s'est retrouvé dans ce camp de Drancy. Je rappelle, au cas où quelqu'un ignorerait ce que fut ce camp, de 1941 à août 1944, le camp d'internement de Drancy, qu'on appelle Drancy, a été le site clé de la Shoah en France, situé au nord-est de Paris, dans la banlieue parisienne. 9 juifs déportés de France sur 10 sont passés par le camp de Drancy pendant la Seconde Guerre mondiale.
Vous voyez arriver...
Il a fait son dernier pif
à Drancy. Vous en voyez repartir, et vous, vous restez. Mais comment ça se fait que vous, vous restez à l'intérieur ?
Nous étions les seuls Argentins. C'est grâce à ça que nous n'avons pas été déportés. Bon, les déportés, on savait très bien que c'était pas pour aller travailler en Allemagne. J'ai vu une femme de 104 ans sur un brancard. J'ai vu des bébés. J'ai vu des malades. Des gens qui tenaient à peine sur leurs jambes. Enfin, de tout âge. Et... on savait que c'était pour Pichipoy. Pichipoy est un mot qui ne veut rien dire, c'était l'humour juif, si l'on veut, pour dire nulle part. On savait très bien que c'était pour être exterminé.
Et donc à Drancy, vous voyez des convois arriver, vous voyez oui. Tout le monde repartir pour Pichipoy.
Nous sommes restés 3 mois à Drancy, et il y a eu... dès qu'il y avait 1000 personnes, un convoi partait. J'ai croisé des gens extraordinaires et tous ont disparu.
Et alors là, vous, vous restez 3 mois parce que finalement, vous êtes dans un no man's land juridique. On ne sait pas trop quoi faire de vous. Est-ce qu'on vous envoie pour Pichipoy comme tous les juifs de France ou alors est-ce qu'on vous libère parce que vous êtes argentin ?
Nous avons été arrêtés à Vire dans un camion bâché par la Gestapo directement. On nous a transférés en chemin de fer vers Drancy. Mon frère a réussi à jeter quelques lettres sur la voie ferrée. Ces lettres sont toutes arrivées au consulat d'Argentine. C'est-à-dire que les cheminots ont dû mettre des timbres et les poster. C'est ça qui nous a sauvés.
C'est-à-dire c'est vraiment la bouteille à la mer. Là. C'est le petit bout de papier jeté par la fenêtre qui vous permet, une fois que vous êtes interné à Drancy, que le consulat vienne vous rechercher en disant « Bon, attendez, celui-là, il est argentin, il est encore sous notre responsabilité. »
C'est donc grâce à ce fait... que le consul a pu se battre pour nous libérer. Et donc, ils ont été obligés de nous libérer à contre-cœur.
Alors libérés, mais les rapports diplomatiques sont rompus avec l'Argentine et il faut des papiers au Kaminski.
Et commencer à travailler
de fil en aiguille, on peut pas raconter tout le livre quand même, Adolfo sera contacté par un certain Pingouin, un type dont le nom de résistant est Pingouin, qui...
La couleur.
Des papiers, des faux papiers.
Là, vous recevez vos faux papiers, mais quand est-ce que vous produisez votre premier faux vous-même ?
Quelques jours plus tard, on m'a amené au laboratoire de la 6e. Le laboratoire de la 6e était surtout spécialisé dans les sauvetages des enfants juifs. C'était au 17 rue des Saints-Pères. Au dernier étage, une chambre de bonne tout en longueur, avec une longue table. Le travail principal... C'était d'effacer les tampons juifs en rouge, en diagonale sur les cartes d'alimentation et sur les cartes d'identité. C'était d'effacer les noms trop typiquement juifs.
Rabinovitch devenait Monsieur Martin, quoi.
Oui, absolument. Par contre, les produits de décoloration décolorent l'encre, mais les produits restent dans le papier. Et avec la transpiration, les émanations de transpiration du corps, les encres peuvent réapparaître. Et en tout cas, le papier souffre beaucoup, c'est-à-dire...
C'est-à-dire que là où il y avait marqué « juif avant », on l'effaçait. Mais vous dites, avec ces produits-là, au contact de la peau, au contact de la sueur, il y a le risque que « juif » et « Rabinovitch » reviennent, soient réécrits en dessous de Martin. Quoi.
Ça revenait le plus vite que j'ai pu. J'ai mis en route... les possibilités de faire des tampons, de faire d'imprimer, même sans presse, sans machine, sans gravure. Bon, et très vite aussi, j'ai mis en route la photogravure, l'impression, parce que moi, ça me faisait peur, les bricolages et les décolorations, c'est toujours détectable par un œil averti.
Dans la chambre de bonne du 6e étage de la rue des Saints-Pères, vous dites aux copains qui fabriquent des faux papiers, notamment pour les enfants juifs, « Attendez, il faut arrêter le bricolage, on ne va plus comme ça gratouiller. Maintenant, il faut que ça devienne un atelier sérieux. » Avec une norme ISO 9001 et tout ça, alors.
Je n'ai pas utilisé ce vocabulaire. J'ai dit qu'on pouvait améliorer et la production et la qualité. Et alors, la chose, je pourrais dire géniale, c'est que l'outre m'a demandé d'écrire tout ce que j'apportais de nouveau, de façon à renéotyper et d'envoyer à tous les autres laboratoires de la 6e à travers la France les méthodes, les améliorations, les petites trouvailles que je faisais.
Vous étiez le laboratoire d'avant-garde. Vous testiez de nouvelles techniques et vous aviez des méthodes de communication dans la clandestinité qui permettaient à d'autres laboratoires en France de fabriquer des faux papiers plus fiables et plus rapidement.
Oui, bien sûr, chaque trouvaille était immédiatement envoyée aux autres laboratoires, en particulier à Grenoble, à Lyon, à Nice, enfin à la zone sud, mais aussi le nord de l'Europe, Belgique, Luxembourg, mais il fallait des certificats de baptême. Il fallait des actes de naissance, il fallait des cartes de tabac, des naturalisations. Et d'ailleurs, on avait tout un vocabulaire. On disait, voilà, on a besoin d'un bif. Un bif, c'était une carte d'identité. Un empaillage, c'était une naturalisation.
À Paris, au palais Berlitz, vient de s'ouvrir l'exposition « Le Juif et la France ». Au pied de la gigantesque statue « La France nouvelle », se dégageant de l'emprise juive, le capitaine Cézille prononce le discours d'inauguration.
Les actualités mondiales. 12 septembre 1941.
Pendant les trois premiers jours, 13 000 personnes ont visité cette remarquable exposition où se trouvent rassemblés les documents, les photographies démontrant le péril juif dans tous les domaines de l'activité nationale. Ces graphiques, ces tableaux, ces statistiques donnent véritablement le vertige. Il prouve combien la France, victime de sa générosité et de sa traditionnelle hospitalité, surtout depuis 1936, s'était enjuivée. Tous les postes de commande de la Maison France se trouvaient entre les mains des Juifs. Après avoir jeté dans la guerre un peuple profondément attaché à la paix, ils ont conduit la France vers la plus totale défaite de son histoire. Telle fut l'œuvre destructive des Juifs en France.
Vous êtes un bon petit chimiste de 17 ans libéré de Drancy, mais vous n'êtes toujours pas faussaire quand même.
Non, non. Alors on n'avait pas le droit de retourner en Normandie. Nous n'avions pas le droit de travailler, nous n'avions pas le droit d'être dehors après 8 heures, nous n'avions pas le droit d'aller ni dans les jardins publics, ni dans les cinémas. Il fallait aller dans le dernier wagon du métro. Nous n'avions pas le droit de faire la queue dans un magasin en dehors de certaines heures bien définies où il n'y avait plus rien à vendre. Toutes ces gentillesses. Et donc, aller où? Nous n'avions pas le choix. Nous avons été obligés d'aller nous faire héberger dans les maisons de l'UGIF. L'UGIF, c'était l'Union Générale des Israélites de France, organisée par Vichy pour pouvoir tenir à la disposition des nazis, les juifs, et qu'ils puissent donc être ramassés aux heures des rafles. Donc,
C'est-à-dire que c'était des bâtiments organisés par Vichy, spécial pour les juifs.
Oui, puisqu'on leur avait tout pris. J'ai connu des gens extraordinaires. Et puis un beau matin, à 6 heures du matin, on vient ramasser tout le monde. Là, c'était les Waffen-SS. En fait, j'ai échappé de justesse. Donc, il fallait des faux papiers pour moi et pour ma famille. Et mon père a pris contact avec la résistance. Et c'est moi qui ai été envoyé au rendez-vous avec les photos à mettre sur les faux papiers. J'ai été contacté par un jeune homme. Il me dit, je te conseille de garder les initiales. Comment tu veux t'appeler? Je dis, mais je sais pas, j'ai rien prévu. Est-ce que Keller, ça te convient? C'est un fait un peu alsacien, mais bon. J'ai dit, oui, pas de problème. On garde le prénom, Adolphe. Et je te mets étudiant. J'ai dit, pas étudiant, parce que j'ai besoin de travailler. Et qu'est-ce que tu veux que je mette? Je dis, teinturier. Teinturier, tu es teinturier? J'ai dit oui. Il me dit, ah ben, j'ai un petit problème. Tu sais enlever les taches d'encre sur les vêtements, donc tu peux enlever les taches d'encre aussi sur les papiers. Et là, je lui dis, oui. De toute façon, il n'y a pas d'encre indélébile. J'ai fait des recherches. C'est passionnant. Je suis passionné par la couleur, la chimie de la couleur. Il me dit, nous avons un seul problème. C'est l'encre bleue Waterman. Alors je lui dis, acide lactique. Il me dit, acide lactique. Je dis oui, parce que, voilà, je travaille bénévolement une journée par semaine à la Beurrerie Belle à Vire, pour être avec un vrai chimiste qui analyse la quantité d'acide lactique dans le lait et la crème à la vitesse de décoloration d'une solution de bleu de méthyle.
Donc, c'est-à-dire que c'est grâce à la Beurrerie de Vire, oui, où, en plus de la teinturerie et de vos travaux du soir dans votre maison où vous faites cramer la cuisine, c'est grâce à la Beurrerie de Vire que vous pouvez donner un conseil sur comment faire des faux papiers.
Oui. Il me dit, mais est-ce que ça t'intéresserait de travailler avec nous? Évidemment, c'était inespéré. J'acceptais immédiatement.
Et vous en avez fabriqué combien au total des faux papiers?
Impossible à savoir, des dizaines de milliers, mais je ne sais pas combien. Alors, par exemple, quand j'ai été décoré à Limoges, les journalistes ont écrit « Adolfo Kaminski a sauvé 3000 enfants juifs ». Alors, j'ai dit « c'est beaucoup plus, mais c'est pas moi tout seul ». C'était la course contre la mort, jour et nuit. Enfin, les journées étaient trop courtes pour faire face à tout. Les besoins étaient énormes. Les demandes étaient urgentes. Il y avait des dates de déportation que nous connaissions, des dates d'arrestation que nous connaissions.
C'est-à-dire que vous saviez d'avance que tel groupe de personnes allait être arrêté lundi, donc avant lundi, il fallait absolument qu'il y ait des faux papiers produits pour exfiltrer toutes ces personnes-là.
Oui, on savait qu'il y aurait une rafle dans tel quartier, et puis les gens n'étaient pas tous prêts à accepter les faux papiers. Il y a des gens qui disaient « Mais nous sommes en règle, nous sommes français, nous n'avons rien fait de mal, nous portons l'étoile bien en évidence, nous n'allons pas dans les cafés, nous ne faisons rien d'interdit, nous sommes scrupuleusement honnêtes et nous n'allons pas vivre avec des faux papiers parce que ça c'est malhonnête. »
Vous dites c'était une course contre la mort. Ça veut dire que du matin au soir, vous aviez le sentiment d'être dans « il faut qu'on produise plus pour en sauver plus ».
Oui, et surtout bien, parce que la moindre erreur, et on envoyait à la mort quelqu'un au lieu de le sauver.
Finalement, vous êtes l'un des justes qui contribue à sauver des enfants, et vous êtes l'un de ceux qui culpabilisent le plus. C'est-à-dire que quand vous dormez, vous dites « si je dors une heure », comme vous faites 30 papiers par heure, si je dors une heure, 30 personnes meurent. C'est-à-dire comme si vous n'aviez plus le droit au sommeil, de manière à sauver en permanence des gens dans cette course.
Oui, mais on vivait dans un monde de fous. Les gens qui étaient systématiquement éliminés n'étaient coupables de rien. Où est la justice dans cette affaire? C'est-à-dire qu'un État puisse faire autant de délires imbéciles et de soumission d'un autre pays qu'il a vaincu. Moi, j'en ai beaucoup souffert en tant que Français que je n'étais pas, parce que j'ai choisi la France, qui était un pays cher à mon cœur, parce que j'ai appris liberté, égalité, fraternité, et c'est ce que j'ai appliqué. J'y ai laissé un œil, j'y ai laissé aussi, bien sûr j'ai des séquelles, enfin je dois dire que je m'en sors pas mal en fin de compte, parce que bon, tous les autres sont morts autour de moi.
Tu dis parfois que si t'avais pas pu sauver tous ces gens-là, tu t'en serais jamais remis de la guerre.
Oui, parce que la culpabilité du survivant, c'est pas théorique, c'est pas abstrait. On l'a subi, quoi qu'on sache qu'on n'a pas le droit de baisser les bras, c'est quelque chose de très lourd. Et ça, j'aimerais ne pas transmettre à mes enfants.
Il faut lire ce livre passionnant d'un bout à l'autre, Adolfo Kaminski, La vie, une vie de faussaire. À la libération de Paris, il a été engagé par les services secrets militaires français, mais ça ne lui a pas plu. Il a démissionné au moment des prémices de la guerre d'Indochine dans les années 50, parce qu'il ne voulait pas collaborer à la guerre coloniale. C'est-à-dire que la boussole morale d'Adolfo était doublée d'une conscience politique très étayée, bien précise. Et ensuite, il va, dans l'enthousiasme des lendemains de cette guerre, enthousiasme vers la Palestine, vers les kibboutz, vers la construction d'un État où les Juifs auraient leur patrie, serait chez eux après tout ce qui leur était arrivé. Dans cet enthousiasme-là, il soutient des groupes comme la Haganah, comme le groupe Stern, qui sont, la Haganah et le groupe Stern étaient des groupes tout à fait terroristes et qui se proclamaient ainsi eux-mêmes, mais qui ont contribué à la naissance et à la construction d'Israël. Et il va aider les migrations juives vers la Palestine de 1946 à 1948, date de la création de l'État d'Israël.
Dans ça, il y a un épisode où vous avez failli devenir terroriste.
J'ai donc aidé le groupe Stern, qui était un groupuscule judéo-arabe. Bon, j'ai rendu plein de services et un beau jour, on m'a demandé de faire une bombe. Alors, moi, je suis non-violent.
C'était au moment où la Palestine était encore occupée par les Anglais.
Oui.
Donc, c'était une bombe qui devait aider à la libération du territoire palestinien.
Théoriquement, qui était en tout cas une bombe qui était faite pour tuer un ministre. À l'époque, c'était Bevin.
Donc, le ministre des Affaires étrangères anglais.
C'est ça, oui, qui était opposé au départ des troupes anglaises, etc. Mais pourquoi tuer un homme? Aujourd'hui, on m'a dit, mais pourquoi n'as-tu pas refusé? Parce que si j'avais refusé...
Pendant la seconde...
et n'auraient pas fait comme moi, c'est-à-dire...
Donc finalement, vous avez accepté de fabriquer
De fabriquer cette bombe, simplement, j'ai enlevé tout l'explosif, j'ai mis de la pâte à modeler à la place, et j'ai quand même fait un détonateur qui ne marchait pas. Quelqu'un s'est chargé de porter cette bombe, il y a toute une histoire... Pour moi,
donc finalement, la bombe, elle a explosé ou pas?
Non, elle n'a pas explosé, puisqu'elle était faite pour ne pas exploser. Moi, j'ai fait ce qu'il faut.
Finalement, vous avez dit « j'accepte », justement pour pouvoir saboter l'opération.
Oui, parce que si j'avais refusé, il se serait adressé à quelqu'un d'autre.
C'est ce que je trouve le mieux dans votre parcours. Ces moments, à la limite, dans tous les moments où vous faites des faux papiers, on peut se dire « bon, bah, c'est un bon technicien ». Vous voyez, vous êtes un bon artiste du faux papier, vous arrivez à mettre en place des procédés, vous fabriquez ça par dizaines, par centaines, par milliers. On peut être admiratif, mais comme d'un technicien. Mais en revanche, sur le plan politique, je trouve qu'il y a quelque chose qui est très fort dans votre parcours, c'est ces moments où vous dites non. C'est « non, je ne resterai pas dans l'armée française s'il s'agit de préparer la guerre en Indochine et donc d'aider à mener une guerre coloniale ». C'est de dire « non, je ne n'aiderai pas à assassiner un ministre, fût-il le ministre des Affaires étrangères anglaise ». C'est parce que vous...
Pichipoy est un mot qui ne veut rien.
Vous ne fabriquerez pas des bombes, vous auriez pu basculer dans l'ultra-gauche et devenir un terroriste. Et là encore, vous dites non. C'est-à-dire toujours quand même vous êtes sur le fil. Vous n'êtes pas tout le temps des groupes qui ont les mains propres non plus. Et pourtant, c'est comme si dans tout votre parcours, il y avait une boussole qui vous permettait pas...
Miner.
Et donc à Drancy...
La majorité de mes activités clandestines... Je refusais d'être payé pour ne pas être un mercenaire et pour ne pas...
Au Pichipoy.
Nous sommes restés 3 mois à Drancy. Il y a eu, dès qu'il y avait 1000 personnes, un convoi partait.
Guerre d'Algérie.
Oui, pour moi, il était inadmissible que la France, la torture, le racisme, la ségrégation ont disparu. Rien contre la France... C'est pour l'honneur de la France que j'ai fait ça. Bien sûr, j'ai appris à connaître les Algériens que j'aime.
Avec la guerre d'Algérie, en même temps, enfin, ou un peu après, vous travaillez pour 15... Vous, est-ce qu'on vous vend l'Afrique noire, la Guinée, l'Angola, comme tous les Juifs de France, ou alors est-ce qu'on vous libère des colonisations qui se concentrent en un seul point? Alors, comment vous faites pour, pendant ce temps-là, pour échapper? Parce que autour de vous, les arrestations...
Dans un camion bâché...
L'abri.
J'ai la réputation d'avoir très mauvais caractère, parce que j'imposais une discipline à faire vers Drancy. Mon frère a réussi à jeter quelques lettres sur la voie ferrée. Ces lettres sont toutes arrivées au consulat d'Argentine. C'est-à-dire que les cheminots... ont dû mettre des timbres et les poster. C'est ça qui nous a sauvés.
C'est-à-dire c'est vraiment la bouteille à la mer. Là. C'est le petit bout de papier jeté par la fenêtre qui vous permet, une fois que vous êtes interné à Drancy, que le consulat vienne vous rechercher en disant « Bon, attendez, celui-là, il est argentin, il est encore sous notre responsabilité. »
On m'avait demandé à ce fait... que le consul a pu se battre pour nous libérer. Et donc, ils ont été obligés de nous libérer, à contre-cœur.
Alors, libérés, mais les rapports diplomatiques sont rompus avec l'Argentine et il faut des papiers au Kaminski. Et c'est ainsi que, de fil en aiguille, on ne peut pas raconter tout le livre quand même, Adolfo sera contacté par un certain Pingouin, un type dont le nom de résistant est Pingouin, qui lui fournira des papiers, des faux papiers.
Là, vous recevez vos faux papiers, mais quand est-ce que vous produisez votre premier faux vous-même?
Quelques jours plus tard, on m'a amené au laboratoire de la 6e. Le laboratoire de la 6e était surtout spécialisé dans les sauvetages des enfants juifs. C'était au 17 rue des Saints-Pères, au dernier étage, une chambre de bonne tout en longueur, avec une longue table. Le travail principal, c'était d'effacer les tampons juifs en rouge, en diagonale sur les cartes d'alimentation et sur les cartes d'identité. c'était d'effacer les noms trop typiquement juifs.
Rabinovitch devenait Monsieur Martin, quoi.
Oui, absolument. Par contre, les produits de décoloration décolorent l'encre, mais les produits restent dans le papier. Et avec la transpiration, les émanations de transpiration du corps, les encres peuvent réapparaître, et en tout cas, le papier souffre beaucoup, c'est-à-dire...
C'est-à-dire que là où il y avait marqué « juif » avant, on l'effaçait, mais vous dites avec ces produits-là, au contact de la peau, au contact de la sueur, il y a le risque que « juif » et « Rabinovitch » reviennent, soient réécrits en dessous de Martin, quoi.
Ça revenait le plus vite que j'ai pu. J'ai mis en route les possibilités de faire des tampons, de faire d'imprimer, même sans presse, sans machine, sans gravure. Bon, et très vite aussi, j'ai mis en route la photogravure, l'impression, parce que moi, ça me faisait peur, les bricolages et les décolorations, c'est toujours détectable par un œil averti.
Dans la chambre de bonne du 6e étage de la rue des Saints-Pères, vous dites aux copains qui fabriquent des faux papiers, notamment pour les enfants juifs, « Attendez, il faut arrêter le bricolage, on ne va plus comme ça gratouiller. Maintenant, il faut que ça devienne un atelier sérieux. » Avec une norme ISO 9001 et tout ça, alors.
Je n'ai pas utilisé ce vocabulaire. J'ai dit qu'on pouvait améliorer et la production et la qualité. Et alors, la chose, je pourrais dire géniale, c'est que l'outre m'a demandé d'écrire tout ce que j'apportais de nouveau, de façon à renéotyper et d'envoyer à tous les autres laboratoires de la 6e à travers la France les méthodes, les améliorations, les petites trouvailles que je faisais.
Vous étiez le laboratoire d'avant-garde. Vous testiez de nouvelles techniques et vous aviez des méthodes de communication dans la clandestinité qui permettaient à d'autres laboratoires en France de fabriquer des faux papiers plus fiables et plus rapidement.
Oui, bien sûr, chaque trouvaille était immédiatement envoyée aux autres laboratoires, en particulier à Grenoble, à Lyon, à Nice, enfin dans la zone sud, mais aussi le nord de l'Europe, Belgique, Luxembourg, mais il fallait des certificats de baptême. Il fallait des actes de naissance, il fallait des cartes de tabac, des naturalisations. Et d'ailleurs, on avait tout un vocabulaire. On disait, voilà, on a besoin d'un bif. Un bif, c'était une carte d'identité. Un empaillage, c'était une naturalisation.
À Paris, au Palais Berlitz, vient de s'ouvrir l'exposition « Le Juif et la France ». Au pied de la gigantesque statue « La France nouvelle », se dégageant de l'emprise juive, le capitaine Cézille prononce le discours d'inauguration.
Les actualités mondiales. 12 septembre 1941.
Pendant les trois premiers jours, 13 000 personnes ont visité cette remarquable exposition où se trouvent rassemblés les documents, les photographies démontrant le péril juif dans tous les domaines de l'activité nationale. Ces graphiques, ces tableaux, ces statistiques donnent véritablement le vertige. Ils prouvent combien la France, victime de sa générosité et de sa traditionnelle hospitalité, surtout depuis 1936, s'était enjuivée. Tous les postes de commande de la Maison France se trouvaient entre les mains des Juifs. Après avoir jeté dans la guerre un peuple profondément attaché à la paix, ils ont conduit la France vers la plus totale défaite de son histoire. Telle fut l'œuvre destructive des Juifs en France.
Vous êtes un bon petit chimiste de 17 ans libéré de Drancy, mais vous n'êtes toujours pas faussaire quand même.
Non. Et alors, on n'avait pas le droit de retourner en Normandie. Nous n'avions pas le droit de travailler, nous n'avions pas le droit d'être dehors après 8 heures, nous n'avions pas le droit d'aller ni dans les jardins publics, ni dans les cinémas. Il fallait aller dans le dernier wagon du métro. Nous n'avions pas le droit de faire la queue dans un magasin en dehors de certaines heures bien définies où il n'y avait plus rien à vendre. Toutes ces gentillesses. Et donc, aller où? Nous n'avions pas le choix. Nous avons été obligés d'aller nous faire héberger dans les maisons de l'UGIF. L'UGIF, c'était l'Union Générale des Israélites de France, organisée par Vichy pour pouvoir tenir à la disposition des nazis, les juifs, et qu'ils puissent donc être ramassés aux heures des rafles. Donc,
c'est-à-dire que c'était des bâtiments organisés par Vichy, spécial pour les Juifs.
Oui, puisqu'on leur avait tout pris. J'ai connu des gens extraordinaires. Et puis un beau matin, à 6 heures du matin, on vient ramasser tout le monde. Là, c'était les Waffen-SS. En fait, j'ai échappé de justesse. Donc il fallait des faux papiers pour moi et pour ma famille. Et mon père a pris contact avec la résistance. Et c'est moi qui ai été envoyé au rendez-vous avec les photos à mettre sur les faux papiers. J'ai été contacté par un jeune homme. Il me dit, je te conseille de garder les initiales. Comment tu veux t'appeler? Je dis, mais je sais pas, j'ai rien prévu. Est-ce que Keller, ça te convient? C'est un fait un peu alsacien, mais bon. J'ai dit, oui, pas de problème. On garde le prénom, Adolphe. Et je te mets étudiant. J'ai dit, pas étudiant, parce que j'ai besoin de travailler. Et qu'est-ce que tu veux que je mette? Je dis, teinturier. Teinturier, tu es teinturier? J'ai dit, oui. Il me dit, ah ben, j'ai un petit problème. Tu sais enlever les taches d'encre sur les vêtements, donc tu peux enlever les taches d'encre aussi sur les papiers. Et là, je lui dis, oui, de toute façon, il n'y a pas d'encre indélébile. J'ai fait des recherches. C'est passionnant. Je suis passionné par la couleur, la chimie de la couleur. Il me dit, nous avons un seul problème. C'est l'encre bleue Waterman. Alors je lui dis, acide lactique. Il me dit, acide lactique. Je dis oui, parce que, voilà, je travaille bénévolement une journée par semaine à la Beurrerie Belle à Vire pour être avec un vrai chimiste qui analyse la quantité d'acide lactique dans le lait et la crème à la vitesse de décoloration d'une solution de bleu de méthyle.
Donc, c'est-à-dire que c'est grâce à la Beurrerie de Vire, où, en plus de la teinturerie et de vos travaux du soir dans votre maison où vous faites cramer la cuisine, c'est grâce à la Beurrerie de Vire que vous pouvez donner un conseil sur comment faire des faux papiers.
Oui. Il me dit, mais est-ce que ça t'intéresserait de travailler avec nous? Évidemment, c'était inespéré. J'acceptais immédiatement.
Et vous en avez fabriqué combien au total des faux papiers?
Impossible à savoir, des dizaines de milliers, mais je ne sais pas combien. Alors, par exemple, quand j'ai été décoré à Limoges, les journalistes ont écrit « Adolfo Kaminski a sauvé 3000 enfants juifs ». Alors, j'ai dit « c'est beaucoup plus, mais ce n'est pas moi tout seul ». C'était la course contre la mort, jour et nuit. Enfin, les journées étaient trop courtes pour faire face à tout. Les besoins étaient énormes. Les demandes étaient urgentes. Il y avait des dates de déportation que nous connaissions, des dates d'arrestation que nous connaissions.
C'est-à-dire que vous saviez d'avance que tel groupe de personnes allait être arrêté lundi, donc avant lundi, il fallait absolument qu'il y ait des faux papiers produits pour exfiltrer toutes ces personnes-là.
Oui, on savait qu'il y aurait une rafle dans tel quartier, et puis les gens n'étaient pas tous prêts à accepter les faux papiers. Il y a des gens qui disaient « mais nous sommes en règle, nous sommes français, nous n'avons rien fait de mal, nous portons l'étoile bien en évidence, nous n'allons pas dans les cafés, nous ne faisons rien d'interdit, nous sommes scrupuleusement honnêtes ». Et nous n'allons pas vivre avec des faux papiers, parce que ça, c'est malhonnête.
Vous dites c'était une course contre la mort. Ça veut dire que du matin au soir, vous aviez le sentiment d'être dans « il faut qu'on produise plus pour en sauver plus ».
Oui, et surtout bien, parce que la moindre erreur, et on envoyait à la mort quelqu'un au lieu de le sauver.
Finalement, vous êtes l'un des justes qui contribue à sauver des enfants, et vous êtes l'un de ceux qui culpabilisent le plus. C'est-à-dire que quand vous dormez, vous dites, si je dors une heure, comme vous faites 30 papiers par heure, si je dors une heure, 30 personnes meurent. C'est-à-dire comme si vous n'aviez plus le droit au sommeil, de manière à sauver en permanence des gens dans cette course.
Oui, mais on vivait dans un monde de fous. Les gens qui étaient systématiquement éliminés n'étaient coupables de rien. Où est la justice dans cette affaire? C'est-à-dire qu'un État puisse faire autant de délires imbéciles et de soumission d'un autre pays qu'il a vaincu, j'en ai beaucoup souffert en tant que Français que je n'étais pas, parce que j'ai choisi la France, qui était un pays cher à mon cœur, parce que j'ai appris liberté, égalité, fraternité, et c'est ce que j'ai appliqué. J'y ai laissé un œil, j'y ai laissé aussi, bien sûr j'ai des séquelles, enfin je dois dire que je m'en sors pas mal en fin de compte, parce que bon, tous les autres sont morts autour de moi.
Tu dis parfois que si tu n'avais pas pu sauver tous ces gens-là, tu t'en serais jamais remis de la guerre.
Oui, parce que la culpabilité du survivant, c'est pas théorique, c'est pas abstrait. On l'a subi, quoi qu'on sache qu'on n'a pas le droit de baisser les bras, c'est quelque chose de très lourd. Et ça, j'aimerais ne pas transmettre à mes enfants.
Il faut lire ce livre passionnant d'un bout à l'autre, Adolfo Kaminski, La vie, une vie de faussaire. À la libération de Paris, il a été engagé par les services secrets militaires français, mais ça ne lui a pas plu. Il a démissionné au moment des prémices de la guerre d'Indochine dans les années 50, parce qu'il ne voulait pas collaborer à la guerre coloniale. C'est-à-dire que la boussole morale d'Adolfo était doublée d'une conscience politique très étayée, bien précise. Et ensuite, il va, dans l'enthousiasme des lendemains de cette guerre, enthousiasme vers la Palestine, vers les kibboutz, vers la construction d'un État où les Juifs auraient leur patrie, serait chez eux, après tout ce qui leur était arrivé dans cet enthousiasme-là, il soutient des groupes comme la Haganah, comme le groupe Stern, qui sont, la Haganah et le groupe Stern étaient des groupes tout à fait terroristes, et qui se proclamaient ainsi eux-mêmes, mais qui ont contribué à la naissance et à la construction d'Israël, et il va aider les migrations juives vers la Palestine de 1946 à 1948, date de la création de l'État d'Israël.
Dans ça, il y a un épisode où vous avez failli devenir terroriste.
J'ai donc aidé le groupe Stern, qui était un groupuscule judéo-arabe. Bon, j'ai rendu plein de services et un beau jour, on m'a demandé de faire une bombe. Alors, moi, je suis non-violent.
C'était au moment où la Palestine était encore occupée par les Anglais.
Oui.
Donc, c'était une bombe qui devait aider à la libération du territoire palestinien.
Oui, théoriquement, qui était en tout cas une bombe qui était faite pour tuer un ministre. À l'époque, c'était Bevin.
Le ministre des Affaires étrangères anglais.
C'est ça, oui, qui était opposé au départ des troupes anglaises, etc. Mais pourquoi tuer un homme ? Aujourd'hui, on m'a dit, mais pourquoi n'as-tu pas refusé ? Parce que si j'avais refusé, quelqu'un d'autre l'aurait fait et n'aurait pas fait comme moi, c'est-à-dire...
Donc finalement, vous avez accepté de fabriquer cette bombe, alors ?
J'ai accepté de fabriquer cette bombe, simplement, j'ai enlevé tout l'explosif, j'ai mis de la pâte à modeler à la place, et j'ai quand même fait un détonateur qui ne marchait pas. Quelqu'un s'est chargé de porter cette bombe, à toute une histoire... Pour moi,
donc finalement, la bombe, elle a explosé ou pas ?
Non, elle n'a pas explosé, puisqu'elle était faite pour ne pas exploser. Moi, j'ai fait ce qu'il faut.
Finalement, vous avez dit « j'accepte », justement pour pouvoir saboter l'opération.
Oui, parce que si j'avais refusé, il se serait adressé à quelqu'un d'autre.
C'est ce que je trouve le mieux dans votre parcours. Ces moments, à la limite, dans tous les moments où vous faites des faux papiers, on peut se dire « bon, bah, c'est un bon technicien ». Vous voyez, vous êtes un bon artiste du faux papier, vous arrivez à mettre en place des procédés, vous fabriquez ça par dizaines, par centaines, par milliers. On peut être admiratif, mais comme d'un technicien. Mais en revanche, sur le plan politique, je trouve qu'il y a quelque chose qui est très fort dans votre parcours, c'est ces moments où vous dites non. C'est « non, je ne resterai pas dans l'armée française s'il s'agit de préparer la guerre en Indochine et donc d'aider à mener une guerre coloniale ». C'est de dire « non, je n'aiderai pas à assassiner un ministre, fut-il le ministre des Affaires étrangères anglaise, c'est parce que vous auriez pu basculer aussi dans le banditisme, par exemple. C'est de dire non, je fabriquerai pas des faux billets, non, je fabriquerai pas des bombes. Vous auriez pu basculer dans l'ultra-gauche et devenir un terroriste. Et là encore, vous dites non. C'est-à-dire que c'est comme si, alors que vous êtes toujours, quand même, vous êtes sur le fil, vous n'aidez pas tout le temps des groupes qui ont les mains propres non plus, et pourtant, c'est comme si dans tout votre parcours, il y avait une boussole qui vous permettait par moment de dire non et de dire, ben voilà, ça, c'est pas pour moi.
Pendant la majorité de mes activités clandestines, je refusais d'être payé pour ne pas être un mercenaire et pour ne pas être obligé, justement, d'accepter tout et n'importe quoi.
Après Israël, il y a quelques années de répit, mais vous replongez dans la fabrique de faux papiers avec la guerre d'Algérie.
Oui, pour moi, il était inadmissible que la France utilise les méthodes nazies, la torture, le racisme, la ségrégation, le colonialisme. Et c'est pas pour les Algériens contre la France, c'est pour l'honneur de la France que j'ai fait ça. Bien sûr, j'ai appris à connaître les Algériens que j'aime.
Avec la guerre d'Algérie, en même temps, enfin, ou un peu après, vous travaillez pour 15 pays différents. Pour la Grèce, l'Afrique noire, la Guinée, l'Angola, l'Espagne, le Brésil, le Mexique, le Guatemala. Enfin bon, dans votre atelier, c'est toutes les luttes de décolonisation qui se concentrent en un seul point. Mais alors comment vous faites pour, pendant ce temps-là, pour échapper ? Parce que autour de vous, les arrestations, elles pleuvent. Et vous, ben, vous restez à l'abri.
J'ai la réputation d'avoir très mauvais caractère parce que j'imposais une discipline, il y avait le chantage permanent, où je disais, si vous ne prenez pas les précautions que je vous impose, j'arrête tout de suite.
Alors, quelles sont les mesures, quelle est la discipline que je dois instaurer si je ne veux pas me faire piquer, moi?
Bon, d'abord, ne jamais parler au téléphone. Ensuite, dans les rendez-vous, avoir un système qui, si vous dites demain à 14h, il faut un système pour savoir que cette fois, demain, ça veut dire tout de suite ou dans 3 jours, et 14h, ça veut dire 9h du matin, etc. Enfin,
quand je dis noir, ça veut dire blanc, quoi.
Oui, pas de bavardage, pas de ventrie, etc. Enfin, c'est tout un autre monde. J'ai été obligé de prendre la clandestinité moi-même. J'ai passé plusieurs années en Belgique.
Quand est-ce que vous décidez d'arrêter ?
J'ai décidé d'arrêter en 70 parce que on m'avait demandé de faire des passeports pour l'Afrique du Sud. On m'a donné un modèle, j'ai donc fait tout le nécessaire et j'ai rendu l'original à la personne qui me l'avait donné. 15 jours plus tard, j'ai été voir quelqu'un qui me donne le même passeport avec la même photo.
Le même passeport que la première fois.
Le même passeport avec la même photo. Et puis, un mois plus tard, ça c'est un manque de sérieux absolu, j'ai décidé d'arrêter. En plus, j'étais vraiment épuisé physiquement. Et puis, j'étais couvert de dettes. Et puis, je ne pouvais pas accepter d'être payé parce que je devenais dépendant et j'aurais dû accepter tout et n'importe quoi. Donc.
Alors, en 71, vous arrêtez ? Vous aurez bientôt une vie de bon père de famille, alors.
Oui.
Sur le tard.
Oui, c'était pas prévu. Enfin,
vous appelez ça une vie bonus, même. Vous dites, j'ai eu une deuxième. Enfin, j'ai eu une vie bonus.
Oui, une vie bonus, oui.
Comme dans les jeux électroniques.
Oui, voilà. Ça a donné d'abord 2 garçons et puis en troisième, ma fille.
Alors, Rossé, toi, t'es le fils.
Oui.
Avoir un père qui... ça a fait de toi un rebelle ou...
Non, pas du tout. C'est, moi, je verrais même ça différemment. Je dirais que c'est plus, entre guillemets, un papa exemplaire d'une croyance en l'humanisme. Très loin des hormones et de l'arrogance et du point levé. Là, c'est vraiment plus un héros dans la discrétion, dans le long terme.
Tu consacres une chanson, il s'appelle « Je chante la France ». Et dedans, tu parles de ton père. Je sais pas s'il faut que je le lise parce que moi ça risque de pas tellement rapper quoi.
Pas de souci. Le morceau on parle de tous ces gens-là en fait qui se sont battus contre la politique de la France pour au final faire en sorte que la France soit entre guillemets ressemblante à leurs idéologies.
J'ai la Marseillaise sifflée, le drapeau sous les semelles. J'ai le regard crispé sur ce pays et ses querelles. Le regard débridé, le pelage blanchi. Je bégaye presque sans plus d'accent les mêmes problèmes qu'il y a des décennies. Pays des droits de l'homme, alors vivent les femmes et sauvages, tués par des hommes, même tuant leur propre image. Mais les chansons et les danses de résistance dans leurs insultes intenses embellissent et chantent la France.
Et donc c'est des gens aujourd'hui que la France va mettre médaillé, comme, voilà, comme mon père. Je parle aussi d'Aimé Césaire, je parle d'Olympe de Gouges, je parle de gens en fait, voilà, qu'on va finir par retrouver dans les livres d'histoire.
C'est-à-dire qu'au présent, ils sont combattus par l'État.
Voilà.
Au passé, on leur remet la Légion d'honneur, ça, et puis on les fait entrer au Panthéon, et puis il y a des noms de rues qui portent leur nom.
Voilà, exactement. Et c'est, entre guillemets, l'histoire appartient à ceux qui arrivent à la faire changer. Donc sur mon père, je dis, mon père a combattu Vichy et collaboration.
Mon père a combattu Vichy et collaboration.
Expert en faux papiers sur les victimes de trahison. Agir et résister quand la patrie perd la raison. Il offre l'humanité sans prendre l'accord du président. Alors ensuite, la clandestinité à cause de ses appartenances. De ces combats menés pour mettre justice dans la balance.
La jeunesse, la santé sont cloîtrés dans la résistance.
Pas français, pas de récompense, pas de problème, il sauve la France. Ce sur quoi il s'est battu, c'était pour sauver des gens. Mais entre guillemets, effectivement, c'est l'honneur aussi de la France qui l'a sauvé. Parce qu'aujourd'hui, quand on va parler de Vichy, on va parler de résistance. Heureusement qu'on peut parler de résistance, parce que sinon, entre guillemets, la France aurait plus qu'à aller se cacher.
La pensée de négritude aux écrits d'Aimé Césaire. La langue de Kateb Yassine dépassant celle de Molière. Installant dans les chaumières des mots révolutionnaires. Enrichissant une langue chère à nombreux d'années de la terre. La pensée d'Olympe de Gouges dans une lutte sans récompense. Tous ces êtres dont la réplique remplace un long silence. Tous ces esprits dont la fronde a embelli l'existence. Leur renommée planétaire aura servi à la France. Nos pays lointains sont loin, mais fiers comme une mère. Patrie voyant son enfant parti, mais qui jamais ne l'oublie. Qui défie l'intégration si d'amnésie il s'agit. Rentre dans la patrie si c'est pour en être grandi. Quitte à chanter quelque chose, je chantonne l'humanité. Tout en demandant à ce pays d'admettre que telle est sa chance. Et quand les portes restent closes, il s'agit de s'impliquer. Car c'est de ces échymoses que peut se construire la France. Le secret et la censure créent un long silence. Un silence qui couvre et qui étouffe. Les cris et les répliques aussi, et le pays nous dit chante et chante et chante la France.
Déjà, ton père, c'est un peu compliqué à comprendre parce que c'est un juif russe qui part en Argentine, qui est argentin, mais qui vit en France. Alors, déjà, c'était compliqué à ce niveau-là, hein. Mais ensuite, il aurait pu simplifier pour l'étape d'après. Mais non, il faut que ça soit un juif qui se marie avec une musulmane, fille d'imam. Et donc toi, tu te retrouves à moitié juif, à moitié musulman, quoi.
C'est ça. On a de cesse d'être confronté à des gens qui nous demandent de choisir ce qu'on est, qui nous demandent d'ailleurs d'où on vient, quelles sont nos origines. Je pense que dans une autre époque et dans un autre lieu, c'est peut-être un morceau que j'aurais même pas imaginé écrire deux secondes.
Pendant toute ton enfance ou ton adolescence, on te l'a demandé, mais alors t'es juif ou t'es musulman ?
Non, parce que voilà, je pense que l'époque recule. Aujourd'hui, c'est à une époque, c'était dis-moi ce que t'écoutes ou dis-moi comment tu t'habilles, je te dirai qui tu es. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus dis-moi tes croyances et tes origines et je te dirai qui tu es. Donc c'est comme une régression en réalité.
Moi, je me souviens du moment où ça a commencé à venir pour moi. Et on était au collège et c'était première guerre du Golfe. Et vraiment, les questions identitaires ont commencé à surgir dans la cité. On habitait une cité et tout d'un coup, avant cet événement, avant cette guerre, le seul moment où on parlait des origines, c'était quand il y avait une coupe du monde de football. Et là, tout d'un coup, la question identitaire est arrivée dans la cité par rapport à cette guerre du Golfe. On a commencé vraiment clairement à me demander si j'étais juive, si j'étais musulmane. Comme on est né en Algérie, on avait la nationalité argentine, à me dire oui, mais alors clairement, bah, t'es quoi ? T'es algérienne ? Bah non, t'es pas algérienne, t'es pas ceci, t'es pas cela. Et j'ai jamais eu de rejet ni rien du tout, mais je pense qu'on aurait voulu me faire dire bah, moi je suis avec vous et donc pas avec les autres.
Quand on est argentin, c'est plus facile de répondre en matière de Coupe du Monde de football
c'est
que génial. De guerre du Golfe.
C'est génial de répondre argentin pendant la Coupe du Monde, ouais.
Et en lisant le livre, tu l'as lu le livre ou pas ?
Ouais, qui est très bien d'ailleurs.
Oh, dis donc. Non, mais si toute la famille se met à cirer les chaussures les uns des autres, c'est quand même
un géniaux. Écrit les livres super. Ouais,
t'as écouté son nouvel album ?
Ouais, il est super.
Kaminski et compagnie, c'est une affaire qui tourne, quoi.
Voilà, Kaminski and Co. Voilà, donc prochaine, bientôt côté en bourse.
C'était Adolfo Kaminski, une vie de faussaire, un reportage de François Ruffin, diffusé la première fois sur France Inter en mars 2010. Réalisation Lucie Hakoun et Chloé Sanchez. Adolfo Kaminski, une vie de faussaire, c'est aussi le titre du livre de Sarah Kaminski, paru aux éditions Kalman Lévy. Toute l'équipe de Là-bas attend vos messages sur le site Là-bas si j'y suis et bien sûr sur le répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 85 08 37 37.